Bienvenue dans l'atelier des médias. Plus un seul jour sans qu'on ne mentionne son existence. Elle est un rêve et un cauchemar, un horizon et un enfer. Voiture autonome, reconnaissance faciale, robot juriste, drone tueur, toutes ces créations et des milliers d'autres sont estampillées intelligence artificielle. Que signifie cette expression paradoxale? C'est la question qu'on pose aujourd'hui dans l'atelier. Une question à laquelle le mathématicien et député français Cédric Villani a tenté d'apporter une réponse dans un rapport remis en mars dernier au Premier ministre. Un travail qu'il a présenté et défendu sur de nombreux plateaux télé.
Il n'y a pas de bonne définition d'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, le terme intelligence artificielle n'est pas bon. Mais maintenant que tout le monde en parle, que c'est sur toutes les bouches, on ne peut plus revenir en arrière et changer. Au début, intelligence artificielle, et dans les années 50, c'était l'idée qu'on pourrait reproduire en algorithme la pensée humaine, limitée. Maintenant, c'est tout simplement n'importe quelle technique informatique qui permet d'aboutir à un résultat sophistiqué. Conduire une voiture toute seule, faire un diagnostic subtil. Maintenant, l'intelligence artificielle, c'est conçu pour être utile. Utile.
L'expression « intelligence artificielle » désigne un domaine de recherche scientifique qui essaie de déléguer des tâches complexes à des machines. Dans l'usage courant, c'est aussi comme ça qu'on appelle les innovations issues de ce domaine de recherche, que ce soit des robots capables de parler ou des logiciels permettant de visualiser d'immenses masses de données. Une des difficultés de ce sujet réside dans ce double sens. Nous avons donc voulu y voir plus clair, comprendre comment ces intelligences sont construites, comment elles réagissent à leur environnement, ce qui les façonne et quels peuvent être leurs effets sur la société. Dans la tête des intelligences artificielles, c'est une émission signée Mathilde Saliou, Ziad Malouf, réalisation Simon de Creuse.
Parler d'intelligence, quand on s'intéresse à des machines et des logiciels, c'est source de confusion, d'imprécision et d'angoisse. Pourtant, à en juger par la place qu'occupe désormais le concept d'intelligence artificielle dans notre quotidien, il va falloir s'habituer à cet oxymore et mieux la comprendre.
Alors l'intelligence artificielle, telle que ça a été définie par ses fondateurs dans les années 60 et notamment Marvin Minsky, le but est de reproduire des capacités cognitives humaines avec un ordinateur et donc par exemple des capacités de voir, d'entendre, de raisonner, de jouer aux échecs, aux jeux de go ou de faire toutes sortes d'activités cognitives de haut niveau.
Cet homme, c'est Stéphane Mallat, professeur et titulaire de la chaire des sciences des données au Collège de France. Sa spécialité, ce sont les données, le carburant des intelligences artificielles. Je lui ai demandé de m'expliquer ce qui a provoqué l'effervescence actuelle autour de son champ de recherche.
Déjà, peut-être, ce sera utile d'expliquer l'évolution de l'intelligence artificielle. Notamment dans les années 80, l'intelligence artificielle et avant, l'intelligence artificielle était essentiellement basée sur des algorithmes qui déroulaient des raisonnements logiques à base de ce qu'on appelle des systèmes experts qui avaient pour but de reproduire un raisonnement humain ou d'approximer un raisonnement humain. Ce que l'on voit actuellement et qui s'est beaucoup développé depuis les années 2000, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par ordinateur, qui est basé sur des principes différents. Il s'agit dans ce cas-là d'être capable de répondre à une question à partir de données. Donc cette question, ça peut être quel est le meilleur mouvement d'une pièce au jeu de go ou au jeu d'échecs, ou ça peut être de reconnaître un animal dans une image, de répondre à une question posée par écrit ou de traduire un texte. Et la réponse à cette question, on le fait donc à partir de données. Et pour cela, on développe un algorithme qui va associer la réponse aux données.
Avant, pour construire une intelligence artificielle, on donnait des instructions précises à un logiciel en espérant qu'il utilise ses règles pour apprendre à réagir à son environnement. On lui disait, par exemple, « Si tu vois un engin qui roule avec quatre roues, reconnais-le, c'est une voiture. » Sauf qu'il existe tellement de modèles différents de voitures dans le monde que ça ne fonctionnait pas très bien.
Aujourd'hui, une autre méthode fait ses preuves, notamment grâce aux recherches du scientifique français Yann Lequin qui travaille actuellement pour Facebook.
Au lieu de donner une formule, on montre des dizaines de milliers d'images de voitures à ce programme et on lui dit « ça, c'est une voiture ». On lui donne aussi des dizaines de milliers d'images d'autres objets et on lui dit « ça, ce n'est pas une voiture ». Et à la fin, on ne sait pas comment il fait, on ne sait pas quelle forme de raisonnement le programme s'est fabriqué, mais il est capable de repérer une voiture dans une image qu'il ne connaît pas de manière quasi infaillible.
Stéphane Malat est titulaire de la chaire des sciences des données au Collège de France.
La spécificité de ces algorithmes, c'est qu'ils ont énormément de paramètres et tout l'enjeu de l'apprentissage statistique, c'est de comprendre comment fixer ces paramètres de manière à répondre le mieux possible à ces questions. C'est cette branche d'apprentissage statistique qui a donné l'essentiel des résultats spectaculaires qu'on observe actuellement, notamment pour la reconnaissance d'images, de visages, de paroles, et tout l'exemple que je donnais en incluant la médecine prédictive et actuellement toute la recherche qui peut se faire autour des véhicules autonomes, par exemple. Ces résultats sont spectaculaires parce qu'on n'imaginait pas il y a 10 ans avoir des algorithmes qui seraient capables de, par exemple, reconnaître un visage humain mieux qu'on est capable de le faire soi-même visuellement, ou d'avoir des algorithmes qui reconnaissent parfaitement la voix, ou en tout cas très bien dépendamment du locuteur, ou battre le champion du monde au jeu de Go avec des techniques d'apprentissage. Donc il y a eu, à travers l'augmentation considérable des capacités de calcul, des quantités de données et aussi de l'évolution algorithmique, une amélioration considérable des performances de tous ces algorithmes.
C'est peut-être un peu technique, mais c'est quoi l'évolution algorithmique qui a eu lieu ?
Alors, je vais reprendre peut-être ce que sont ces algorithmes. Comme je le disais, un algorithme d'apprentissage, c'est un algorithme, donc une séquence d'instructions, qui inclut un grand nombre de paramètres. Donc, comment on fixe ces paramètres ? C'est dans la phase d'apprentissage. On donne des exemples à l'algorithme, donc par exemple des images où on lui dit ça c'est un chat, ça c'est un chien, ça c'est un cheval, et les paramètres de l'algorithme sont configurés, sont optimisés de façon à ce que l'algorithme ne fasse pas d'erreur sur les exemples qu'on lui a donnés. Mais l'enjeu, évidemment, c'est d'avoir un algorithme qui soit capable de généraliser, donc un algorithme qui puisse donner la bonne réponse sur des exemples qu'il n'a jamais vus. Et toute la recherche qui est actuellement faite, c'est de comprendre dans quelles conditions est-ce qu'on peut effectivement construire des algorithmes qui généralisent et quelles sont les techniques les plus efficaces pour le faire. D'un point de vue mathématique, il s'agit de comprendre pourquoi est-ce que ce phénomène de généralisation est possible et dans quelles circonstances il n'est pas possible.
Le but, c'est donc de rendre un algorithme capable de généraliser, d'extrapoler. La phase d'entraînement s'appelle le machine learning, ou littéralement l'apprentissage machine. En français, on parle aussi d'apprentissage statistique.
Les statistiques sont un domaine des mathématiques, font partie des outils utilisés en intelligence artificielle. En intelligence artificielle, vous avez donc ces algorithmes d'apprentissage par ordinateur, qui s'appellent aussi des algorithmes d'apprentissage statistique, et donc qui utilisent les statistiques, des informations de corrélation entre les variables pour, comme je le disais, répondre à des questions. Maintenant, il y a d'autres types d'algorithmes en intelligence artificielle, notamment les systèmes experts qui étaient développés dans les années 80. Et finalement, un des enjeux devant lesquels on se trouve actuellement, c'est d'unifier d'une certaine manière ces deux approches. Si je décris ça de façon caricaturale, l'apprentissage statistique et notamment les réseaux de neurones ou ce type d'algorithme, en quelque sorte, correspondrait à notre cerveau inconscient. C'est-à-dire qu'il met en jeu énormément de paramètres, absorbe énormément de données en entrée, comme notre cerveau peut le faire avec l'audition, la vision, le toucher ou n'importe quel de nos sens. Et tout cela est traité très rapidement par notre cerveau, on n'en a pas vraiment conscience. Par contre, tout ce qui est de l'ordre du raisonnement logique, Souvent, ça fait plutôt partie de nos pensées conscientes. Et il y a une interface entre les deux qui, de toute évidence, est extraordinairement importante pour la cognition. Cette interface entre la logique, l'explication, l'utilisation éventuellement d'informations de causalité et tout le traitement de statistiques, disons, des données, eh bien, on la comprend encore très mal. Et c'est un des enjeux de la recherche actuelle de mieux comprendre comment utiliser ces deux aspects. Pourquoi c'est très important ? C'est très important parce que actuellement, les algorithmes d'apprentissage statistique ont besoin d'énormément d'exemples. D'une certaine manière, ils sont un peu bêtes. Ils ne sont pas forcément capables d'extraire des structures qui pourraient être totalement évidentes pour un enfant de 1 ou 2 années qui, par exemple, s'il prend un stylo et le lâche, il sait tout de suite qu'il va tomber. Il y a une forme de connaissance que je qualifierais de bon sens que l'on développe et que ces algorithmes ont du mal à capturer. Ce type de connaissance se représente sous forme mieux, sous forme de lien de causalité. Donc, intégrer ça aux traitements massifs statistiques qui sont faits par ces réseaux de neurones permettrait d'une certaine manière d'avoir le mieux de chacun des deux mondes.
L'une des méthodes qui a fait le plus de progrès dans les dernières années pour construire une intelligence artificielle, c'est celle du deep learning, ou apprentissage profond. Pour fonctionner, elle s'appuie sur une architecture qu'on appelle un réseau de neurones.
Alors, les réseaux de neurones sont des algorithmes qui organisent les paramètres de l'algorithme dont je parlais, sous forme de couches successives qui sont interconnectées. Et on dira qu'un réseau est profond s'il y a beaucoup de couches. Et lors de la phase d'apprentissage, eh bien, tous ces paramètres vont être optimisés de façon à ne pas faire d'erreur, comme je le disais sur les exemples. Mais il faut bien se rendre compte que le nombre de paramètres peut être de l'ordre de dizaines de millions. Donc c'est un nombre considérable de paramètres. Il faut donc énormément d'exemples pour arriver à apprendre efficacement ces paramètres. Et un des mystères mathématiques actuels, c'est pourquoi est-ce que ces algorithmes sont capables de généraliser aussi bien et donc, dans le cas de la reconnaissance d'images, de reconnaître des images qu'ils n'ont jamais vues, voir des visages, voir des scènes extraordinairement complexes, comme on peut l'avoir dans la rue, lorsqu'une voiture va passer et doit prendre sa décision si elle doit tourner à droite ou à gauche, ou un damier ou un échiquier. Et donc, les machines d'apprentissage sont essentiellement des machines qui développent cette capacité de trouver les forme de régularité lorsque l'on a énormément de paramètres et donc du coup peuvent résoudre des problèmes qui en apparence sont aussi différents que du langage, de l'image, du son, de la physique quantique ou diriger une voiture.
Vous écoutez l'atelier des médias et aujourd'hui nous nous plongeons dans la tête des intelligences artificielles grâce à Mathilde Saliou. Dans la première partie de l'émission, Stéphane Mala nous a raconté comment l'intelligence artificielle a évolué depuis la création de la discipline dans les années 50. Il a aussi expliqué qu'une méthode d'apprentissage particulièrement performante consiste à montrer des quantités d'exemples à un programme. C'est à partir de ces exemples que le programme s'entraîne. Mais même s'il devient artificiellement intelligent, il lui arrive de faire des erreurs.
Alors par exemple, reconnaissance de visage à partir d'images. Donc vous avez des images et vous voulez reconnaître quelle est la personne qui apparaît sur cette image. Donc vous allez donner à votre algorithme des exemples en lui disant ben, lui c'est Paul, lui c'est Pierre, lui c'est votre mère, votre fils ou qui que ce soit. Et puis ensuite, après avoir vu suffisamment d'exemples, l'algorithme va se configurer de manière à ne pas se tromper sur les exemples et vous allez lui donner une nouvelle image. Le but de l'optimisation des paramètres, c'est qu'il soit capable de capturer des structures qui sont d'une certaine manière discriminantes pour chacun des visages. Lorsqu'on fait comme cela des statistiques, tout ce que l'on peut faire, c'est d'essayer de minimiser l'erreur, mais on ne peut jamais garantir que l'erreur va être nulle. Pourquoi ? Parce que chaque image apporte une nouvelle configuration, des expressions qui peuvent être totalement différentes, un cadre qui peut être différent, qui donc introduit des nouvelles variables qui ne sont pas totalement maîtrisées et qui peuvent introduire des erreurs. Donc c'est en cela que c'est un traitement véritablement statistique. On va essayer de minimiser les erreurs en incorporant suffisamment d'exemples pour contrôler ces fluctuations statistiques, mais on ne pourra pas les réduire à zéro. Maintenant, il y a d'autres types d'erreurs qui sont parfois introduites, qui sont des erreurs de méthodologie. Par exemple, vous prenez une base de données qui n'est pas représentative. Et ça, ça fait partie, par exemple, des scandales qui ont été relevés dans certains algorithmes de reconnaissance de visage au tout départ par Facebook. C'est que ces algorithmes pouvaient reconnaître beaucoup mieux des blancs que des noirs américains. Pourquoi ? Tout simplement parce que la base de données d'entraînement incluait une beaucoup plus grande proportion d'hommes et de femmes blanches que de noirs américains, et donc il y avait ce qu'on appelle un biais dans la base de données. Il faut réaliser que ces biais dans les bases de données peuvent produire des erreurs qui peuvent être beaucoup plus importantes dans certaines circonstances, et ça, c'est une des grosses sources d'erreurs qui peuvent être mal contrôlées.
L'atelier des médias.
Il existe des dizaines de secteurs dans lesquels l'intelligence artificielle joue un rôle ou va jouer un rôle dans un avenir proche. L'agriculture, la sécurité, la banque, mais aussi la médecine ou les transports avec les véhicules autonomes.
En France, le leader en voiture autonome s'appelle Navia. L'entreprise vend des cars autonomes d'une quinzaine de places et des taxis autonomes. Elle en a déjà testé dans des zones publiques, à Lyon et à Paris, et en fait circuler sur plusieurs sites privés, un peu partout dans le monde. Je suis allée voir Laurence Madja, qui travaille auprès de l'équipe en charge de la perception chez Navia, pour comprendre comment il est possible de rendre une voiture autonome.
Quand on fait de la robotique mobile, on a trois piliers importants. Il y a déjà la perception de l'environnement, et de savoir, être capable de savoir où on est, ce qu'il y a autour de nous. Donc ça, c'est déjà la perception de notre environnement. Une fois qu'on sait où on est et ce qu'il y a autour de nous, on va décider des actions à mener pour pouvoir accomplir sa mission. Et la troisième partie, c'est donc d'agir, d'envoyer des consignes à des actionneurs pour pouvoir réaliser sa mission.
Une voiture autonome, est-ce que ça voit de la même façon qu'un humain ?
Non. Enfin, c'est difficile, on est souvent anthropomorphique là-dessus, il ne faut vraiment pas tomber dans cet écueil-là, vraiment. Les gens ont toujours très très peur de se dire, on va se faire dominer par des machines, ils pensent à Terminator assez facilement. Non, aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on est capable d'apprendre des tâches relativement simples à des machines. Donc on va dire un paquet de pixels, quand vous montrez une photo, quand un ordinateur voit une image, il voit un paquet de pixels. Le but du jeu, c'est d'être capable de sortir de la sémantique, de sortir de l'information sensitive en disant dans ce paquet de pixels, tu as une voiture, tu as un chien, tu as un... Et pour ça, on utilise de l'intelligence artificielle. Maintenant, chaque algorithme est capable de faire des choses très précises. Mais la différence avec un être humain, c'est qu'un être humain va être capable d'une part de détecter un objet, mais aussi de voir à quelle distance il est, de pouvoir agir en conséquence. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer plein d'algorithmes d'intelligence artificielle qui seraient en fait un humain et qui regroupe toutes ces informations-là. On parlait il n'y a pas longtemps de Google qui a battu un grand joueur de Go. Cette machine, elle est très très forte pour jouer au Go, mais elle ne saura pas conduire une voiture. De la même manière, une caméra va être capable de détecter un chien ou un chat ou un piéton ou un cycliste, mais elle ne pourra pas jouer au Go. Donc tout ça pour dire que, déjà pour répondre à votre question de départ, on ne voit pas exactement la même chose. Il y a pas mal de choses sues par un être humain. C'est pour ça qu'aussi les conducteurs expérimentés conduisent mieux que les jeunes conducteurs, parce qu'il y a beaucoup d'expérience dans tout ça. Donc, et une machine, tout ça n'apprend pas forcément aussi bien et n'est pas capable de généraliser autant qu'un être humain.
Il faut donner combien d'exemples au départ pour qu'une voiture réussisse à reconnaître un piéton d'un arbre ?
On compte en dizaines de milliers en général. Donc on a besoin d'un certain nombre d'exemples, donc je vous dis en général de milliers à dizaines de milliers. Et plus vous avez d'exemples, et plus vous êtes capable de généraliser ce procédé. Aujourd'hui, il y a différentes sociétés qui utilisent ce genre de système. Sur Facebook, par exemple, les gens qui fabriquent les bases de données, c'est vous. Parce que vous dites à Facebook, là, je suis sur cette photo, puis là, il y a ma tante, puis il y a ma cousine, puis il y a telle et telle personne. Donc en gros, vous fabriquez de la donnée, vous donnez vos informations à Facebook, à Google, et en faisant ça, vous permettez à ces sociétés d'améliorer leur base de données, donc d'améliorer la précision de leurs algorithmes. Donc aujourd'hui, il y a tout un business model, tout un certain nombre de sociétés qui ont été créées pour fabriquer justement, pour vous vendre des bases de données.
Mais du coup, est-ce que ça veut dire que par l'intermédiaire d'une de ces sociétés, vous utilisez par exemple des données qu'on a faites sur Facebook, des photos qu'on a faites sur Facebook, pour faire reconnaître à vos robots des hommes par rapport à quelque chose d'animé?
Bah en fait, le vrai nerf de la guerre finalement dans cette nouvelle thématique, c'est justement d'avoir de la donnée. Donc on va clairement pas utiliser la donnée Facebook parce que c'est quelque chose de très privé, très précieux que Facebook va pas vous vendre. Donc il y a des sociétés qui vont vous dire bah donnez-moi des images, on va vous les annoter et vous aurez votre propre base d'annotation. Et ça développe un certain nombre de sociétés. Il y a plein de sociétés qui font ça maintenant. C'est un marché de niche, mais c'est un marché qui est en plein essor et qui nécessite de la main d'œuvre généralement à bas coût. Dans des pays où les salaires sont généralement moins élevés et où on va donner des vidéos et en sortie, ces sociétés vont vous vendre des bases annotées.
Alors ça, c'est super intéressant. Il y a un truc qu'on dit assez peu quand on parle d'intelligence artificielle, c'est qu'en fait, il y a un énorme travail humain derrière. Donc vous, ça veut dire que pour réussir à faire soit votre car de 15 places, soit votre voiture, il faut qu'avant, il y ait une société qui est marquée sur des milliers d'images. Ici c'est un homme, ici c'est un arbre, ici c'est un trottoir, etc. C'est quelque chose comme ça qui se passe ?
En partie oui, c'est-à-dire que nous aujourd'hui on utilise relativement peu le machine learning pour faire rouler nos véhicules. Aujourd'hui on a d'autres algorithmes qui nous permettent de rouler en toute sécurité. Maintenant on essaie d'utiliser des caméras pour augmenter la précision de nos détections d'obstacles, typiquement d'obstacles fragiles, des piétons, des cyclistes, quelque chose de fragile où il ne faut absolument pas rentrer dedans. Donc on a besoin d'avoir de la redondance d'informations. C'est-à-dire qu'on a certains capteurs aujourd'hui qui nous permettent de détecter des obstacles, mais pas forcément de les reconnaître. Avec des caméras, on est capable de détecter et de reconnaître ces obstacles. Mais c'est en utilisant la fusion de ces capteurs précédents et des caméras qu'on va avoir une information d'autant plus précise et qu'on sera capable d'agir en toute sécurité par rapport à notre environnement. Donc aujourd'hui, en prérequis de la plupart des algorithmes de machine learning, vous avez toujours une base de données annotée la plupart du temps manuellement et par des humains. Mais comme je vous disais, c'est un business qui se développe, donc il y a plein de nouveaux procédés qui existent. Aujourd'hui, vous avez des moteurs de synthèse, vraiment comme des jeux vidéo, qui vont vous fabriquer des images qui sont très proches de la réalité, que votre caméra pourrait voir, et qui vont qui vont naturellement être annotées. Parce que quand vous fabriquez une image de synthèse, vous décrivez un scénario, et du coup, vous savez ce qu'il y a dans votre scénario. Vous n'avez plus besoin de personne pour annoter cette vidéo. Donc en mélangeant, on va dire, 50% d'images de synthèse et 50% d'images annotées, vous diminuez d'autant plus votre base annotée humainement, donc le coût de cette base, et vous pouvez augmenter comme ça vos données. Et plus vous avez de données, plus vous êtes précis.
En résumé, pour faire qu'une voiture roule par elle-même, il faut lui décomposer de façon très précise ce qu'un humain comprendrait d'un seul coup d'œil. Dans un premier temps, un capteur détecte qu'il y a une forme sur la route, puis une caméra fournit l'image de cette forme. C'est en ayant ces deux informations que l'intelligence artificielle embarquée est capable de reconnaître s'il s'agit d'un sac plastique, par exemple, auquel cas elle peut demander à la voiture de continuer sa route, ou bien d'un humain. Dans ce dernier cas, la voiture s'arrête.
Et ce qui explique Laurence Madja, c'est que pour que cette intelligence artificielle fonctionne, elle a besoin de se nourrir de données qui vont lui permettre de s'entraîner. Ces données doivent pour cela être étiquetées, marquées, informées pour permettre de reconnaître une voiture, un piéton ou un arbre. Et comme cette tâche d'étiquetage, de marquage est fastidieuse, des logiciels ont été construits pour la réaliser. Il arrive donc que des robots participent à éduquer d'autres robots.
On a vu comment les intelligences artificielles réussissent à traiter des images. Mais qu'en est-il du langage, que l'on trouve notamment dans les assistants intelligents ? Stéphane Malin.
Alors, le traitement du langage, plutôt qu'une méthode, c'est une application, tout comme la vision par ordinateur est une application ou la reconnaissance de la parole. Alors c'est un domaine qui est très intéressant parce qu'il a une évolution très rapide actuelle. On a beaucoup pensé le traitement du langage naturel à partir de la grammaire et du lexique, c'est-à-dire les différents mots à l'intérieur du dictionnaire, dont l'agencement serait régulé par la grammaire. Et encore une fois, dans les années 80-90, et notamment autour des théories linguistiques de Chomsky, les gens ont essayé de développer des techniques de reconnaissance de langage ou de synthèse de langage à partir de ces règles. L'apprentissage statistique prend une approche très différente. Au lieu d'essayer de fonctionner à partir des règles, on fonctionne à partir d'exemples. Donc ces algorithmes tels que ceux que vous avez pour faire de la traduction de langage à partir de programmes sur Internet ou d'algorithmes de réponse aux questions utilisent quasiment aucune règle. Par contre, ont un corpus énorme d'exemples et les algorithmes qui, en l'occurrence, sont maintenant beaucoup des réseaux de neurones profonds, intègrent ces exemples à travers les paramètres de l'algorithme et sont ensuite capables de restituer cette information, ou plutôt sont capables de répondre aux questions posées sous forme de langage naturel ou de traduire des textes. Mais encore une fois, non pas en utilisant des règles, mais en utilisant ces capacités de généralisation qu'ont ces algorithmes d'apprentissage.
Hey Cortana, traduire voyage en anglais.
Bien sûr, voici comment on dit voyage en anglais. Travel.
Donc là, Cortana m'a donné la traduction, elle me l'affiche aussi, donc pour que je puisse la récupérer et l'écrire. Et puis elle peut aussi parler les autres langues, je peux demander à Cortana. Hey Cortana, traduire bonjour en japonais.
Bien sûr, voici comment on dit bonjour en japonais.
Je suis Jean-Pierre Rivet, je suis responsable éditorial Cortana. Donc très exactement, je suis en charge de la personnalité de Cortana et de ses contenus conversationnels pour la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne.
Cortana, qu'est-ce que c'est ?
Cortana, c'est l'assistante virtuelle de Microsoft qui fonctionne sur les appareils Windows.
Cortana, elle n'a pas la même personnalité selon les pays ou si ?
Non, elle n'a pas la même personnalité selon les pays, c'est-à-dire qu'elle a une colonne vertébrale, un tronc commun qui sont des traits universels, mais après donc elle est adaptée à chaque culture. Donc selon les cultures, elle se comporte un peu différemment, elle répond différemment, elle communique différemment.
Là, on est devant votre ordinateur, est-ce que vous pouvez me montrer comment ça fonctionne ?
Oui, alors en fait on peut utiliser Cortana pour plusieurs choses, donc par exemple, tout bêtement avant de sortir, savoir le temps qu'il fait, donc on peut demander « Hey Cortana !» Quel temps fait-il ?
Il fait 28 degrés, avec du soleil.
Donc en fait, Cortana a détecté où je me trouvais géographiquement et elle m'a répondu sur la température qu'il fait. Et en même temps, sur mon écran, elle affiche un bulletin météo avec les informations sur la météo d'aujourd'hui et celle des prochains jours. Et elle me fournit aussi un lien pour aller voir tous les détails que je veux voir en plus sur la météo. Ce dont se rendent compte dans l'industrie, tous les gens qui développent des assistants ou des bots, c'est que les gens aiment leur poser des questions triviales. Et donc Cortana répond aussi à ces questions.
Quelle est ta chanson préférée ?
Il m'est impossible d'en choisir une seule, mais j'aime bien les notes de synthétiseur qui me font rêver sur mon nuage.
Je suis bourré. C'est pas vrai, hein ?
Aïe ! Surtout, ne prenez pas le volant et n'appelez pas votre ex.
Voilà, ce qu'on peut dire aussi, c'est que par exemple, la Cortana britannique a un humour beaucoup plus pince sans rire que la Cortana française. C'est-à-dire qu'elle a effectivement un humour qui est adapté au public britannique. Et certainement, cet humour serait mal compris dans d'autres pays.
Mais alors, comment c'est fait ça ? C'est selon l'humour des ingénieurs qui codent Cortana qu'on choisit les blagues qu'elle va proposer ?
Alors, comme je vous disais, donc il y a une partie là, une façon d'exprimer justement la personnalité et peut-être l'endroit où les utilisateurs peuvent mieux la ressentir, c'est lors des conversations triviales. Et ces conversations triviales, justement, elles sont enregistrées et elles sont écrites. Quand on commence à communiquer avec Cortana autour des sujets triviaux comme comment ça va, est-ce que tu m'aimes, etc. Là, on est dans des lignes qui ont été écrites par les auteurs qui travaillent sur Cortana pour justement que l'ensemble de Cortana soit plus amusant et plus satisfaisant à utiliser.
Mais du coup, cette mécanique-là, c'est plus vraiment de l'intelligence artificielle, si ?
Cette stricte partie-là encore une fois, il y a quand même la partie d'intelligence artificielle qui constitue la reconnaissance vocale, c'est-à-dire qu'elle est quand même capable d'interpréter selon ce que les gens disent, ce qu'ils demandent, et donc de fournir la bonne réponse. Mais effectivement, au jour d'aujourd'hui, dans l'état de l'industrie, on n'est pas encore capable d'avoir un agent d'intelligence artificielle qui soit capable de faire de l'humour spirituel juste par utilisation statistique et algorithme.
Si votre assistant vous fait des blagues, ça n'est pas parce qu'il a développé un parfait sens de l'humour, c'est qu'il s'appuie sur un corpus de phrases préprogrammées, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle. Cette intelligence, l'assistant la mobilise plutôt pour comprendre le discours de son interlocuteur et pour la synthèse vocale qui lui permet de répondre à voix haute. Ce sont aussi les algorithmes qui l'aident à aller chercher des réponses sur les moteurs de recherche afin de les fournir à l'utilisateur.
D'ailleurs, si Cortana s'appuie sur Bing, l'assistant personnel de Google, lui, s'appuie sur le moteur de recherche éponyme. À peu près tous les acteurs principaux des nouvelles technologies ont créé leur propre assistant intelligent pour essayer de conquérir le grand public. Windmill, windmill for the land, the forever hand in hand. Take it all in on your stride, it is taking falling down.
La société numérique et de l'innovation.
Vous écoutez l'Atelier des médias, nous continuons notre plongée dans la tête des intelligences artificielles signée Mathilde Saliot en nous intéressant à la médecine. Mathilde Saliot.
L'intelligence artificielle est capable de traiter un nombre de données inégalé. Dans le domaine de la santé, cela suscite de grands espoirs, aussi bien du côté du suivi des patients que de celui de la recherche. Avec son entreprise Kinaps, Olivier Courrèche travaille par exemple à construire des algorithmes pour aider à traiter des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer.
Kinaps est une société qui a été créée fin 2015, qui développe des logiciels d'aide à la décision pour le ciblage des essais cliniques pour les maladies du système nerveux central. Donc on adresse les maladies d'Alzheimer, de Parkinson, la sclérose en plaques et d'autres maladies du cerveau. Et on fournit des logiciels qui permettent de beaucoup mieux sélectionner les patients à inclure dans les essais et à mesurer de façon beaucoup plus précise l'efficacité des traitements. L'objectif, c'est de permettre d'accélérer la validation des nouveaux traitements et ensuite d'aider à les mettre sur le marché plus vite en fait.
En quoi l'intelligence artificielle peut-elle modifier ou améliorer la médecine aujourd'hui ?
Aujourd'hui, dans le domaine qu'on adresse, le diagnostic est aujourd'hui compliqué à établir, en particulier en tout début de maladie, quand le patient est au stade des tout premiers symptômes. Aujourd'hui, il y a une difficulté à identifier précisément si le patient est malade ou pas, à identifier quelle sous-forme de maladie il a. Et beaucoup de temps est perdu dans le diagnostic aujourd'hui. Donc le premier enjeu, c'est ça, c'est d'accélérer le diagnostic au tout début, donc dès la date des tout premiers symptômes. Mais encore une fois, ça a un impact très important pour la suite en fait. Et deuxièmement, c'est l'enjeu de prédire l'évolution de ces maladies-là. Et là aussi, l'enjeu il est très important parce que c'est l'enjeu de la médecine personnalisée. Et là aussi, l'enjeu de personnaliser, de beaucoup mieux cibler les essais cliniques et de raccourcir les essais cliniques, donc d'accélérer la validation de ces nouveaux médicaments. Puis en permettant, par exemple, de faire un diagnostic plus précis, plus vite, on peut aider à apporter une réponse plus précise, plus tôt dans la maladie, donc éviter des certains examens qui ne sont pas forcément nécessaires pour des patients qui sont pas concernés par ces maladies et de concentrer les moyens sur les sujets qui en ont vraiment besoin.
L'intelligence artificielle promet donc de développer des parcours médicaux très précis, adaptés aux variations de santé propres à chaque patient. Elle devrait aussi permettre de comparer des centaines de milliers de dossiers médicaux afin de mettre au point des traitements pour les maladies encore difficilement curables. Toutefois, cela soulève des questions de sécurisation des données des patients afin d'éviter qu'elles ne soient, ces données, utilisées à mauvais escient.
Un autre domaine où les questions d'intelligence artificielle demandent que les données soient gérées avec soin, c'est celui du droit, où les robots doivent s'appuyer sur des centaines de cas pour réussir à conseiller les juristes. Pour en parler, j'ai rencontré Jacques Lévy-VL, mathématicien et cofondateur de Caselaw Analytics, une entreprise qui utilise l'IA, l'intelligence artificielle, pour quantifier le risque juridique.
Quantifier le risque juridique, ça peut être plusieurs choses, mais je vais juste prendre un exemple pour simplifier. Et d'ailleurs, c'est un des points de départ de Caselaw Analytics. Moi-même, j'ai été impliqué dans un litige, à titre personnel, et c'était une affaire qui a duré très très longtemps, plusieurs années. Au bout de 2 ou 3 ans, j'ai demandé à notre avocat si on avait des chances, quelles étaient nos chances de gagner. Il m'a dit, ah non, mais on ne peut pas du tout dire, parce que c'est du droit, c'est humain, on ne peut pas du tout quantifier le risque. Donc ça m'a un petit peu étonné, puisque moi, je faisais de la quantification du risque dans des domaines compliqués comme la médecine ou la finance, et je me suis dit qu'on pouvait sûrement faire pareil en droit. Donc l'idée, quantifier le risque, déjà pour expliquer cet aspect, ça veut dire on va pas prédire ce qui va se passer parce que c'est pas prédictible. Un des autres points de départ, c'est un article que j'ai lu dans les cahiers de l'IHEJ qui dit que on sait bien que 2 juges différents prennent pas la même décision sur un dossier, mais même un seul juge, il peut prendre des décisions différentes à des moments différents. Il évolue, il est influencé par... Voilà. Donc on voit bien que ça n'a pas de sens de prédire, parce que c'est un peu aléatoire. Mais justement, on peut quantifier cet aléa, comme on ne peut pas prédire les cours de bourse, mais on sait aussi qu'ils vont pas, le CAC 40 ne sera pas à 200 000 demain, c'est pas possible. Donc on peut prédire quels sont les différents scénarios possibles et leurs probabilités d'occurrence. Donc c'est ce qu'on fait. On dit à des gens, si vous allez au tribunal de Douai ou à la Cour d'appel de Paris, avec ce dossier-là, on ne peut pas vous dire ce qui va vous arriver, mais on peut dire que si vous y alliez 100 fois, ben 20 fois vous ressortiriez avec telle décision, etc. Donc on quantifie les scénarios possibles, donc on exclut d'office ceux qui ne sont pas possibles, et ensuite on dit pour chaque scénario quelle est sa probabilité d'arriver. Donc nous, l'intelligence artificielle, elle est là, c'est-à-dire qu'on va faire vraiment un modèle de la prise de décision judiciaire. Pour décider par exemple un dossier de licenciement, on va étudier ce contentieux pendant assez longtemps, 1 mois ou 2 mois, où on va parler avec de nombreux spécialistes, donc des juges, qui ont l'habitude de juger ce genre de dossier, des avocats qui plaident dans ce genre d'affaires, etc. Enfin, tous les spécialistes qu'on peut trouver, on leur dit quels sont selon vous les critères. Donc, ben pour un licenciement, il va y avoir évidemment l'ancienneté du salarié, son âge, la taille de l'entreprise, etc. Donc ça, c'est vraiment un travail purement humain de juriste. Voilà, une fois qu'on a fait ce travail, c'est là qu'on va faire l'intelligence artificielle. Donc on va dire à la machine, voilà, tu prends ces critères, et en analysant de la jurisprudence, donc on va essayer d'analyser un maximum de décisions de justice, pour apprendre à la machine comment les vrais juges ont décidé et reproduire ce raisonnement. Donc on écrit des équations qui sont apprises et dont les paramètres sont appris par la machine. Donc comment ça marche? On fabrique ce qu'on appelle des juges virtuels. On reste très humble, hein, ils n'ont pas un raisonnement aussi complexe que des vrais juges, mais ces juges virtuels, ils vont apprendre à partir des décisions qui ont été prises par des vrais juges et des critères qu'on a donnés. Et ensuite, ils vont rendre eux-mêmes des décisions qui sont indistinguables de celles qui sont données par des vrais juges. Et surtout, on ne va pas donner une réponse. Donc nous, on va entraîner par exemple 100 juges virtuels et chacun va donner sa décision. Ce qui fait qu'ensuite, quand quelqu'un vient avec un dossier, on ne lui dit pas voilà ce qui va se passer, mais on dit voilà ce que font les 100 juges virtuels et ils ne font pas tous la même chose.
Et du coup, c'est quoi le taux d'erreur de vos juges à l'heure actuelle? Et enfin, qu'est-ce qu'on dit les magistrats?
Alors déjà, ce n'est pas très facile à mesurer parce que donc on présente pas une décision mais 100 décisions, mais on peut quand même le mesurer. Donc la technologie, elle est prouvée dans un sens mathématique. Moi, c'est mon métier mathématicien, donc je peux pas travailler si je prouve pas les choses. Mais le théorème, il dit que si vraiment on a une très très grosse base de données, pratiquement infinie, alors il y aura pas d'erreur. Dans la réalité, on n'a jamais une base infinie, évidemment, même si ça peut être très gros. Et donc, on a un taux d'erreur qui va entre 85, enfin, un taux de fiabilité, on va dire plutôt entre 85 et 95%. Voilà, et donc ça veut dire que les résultats qu'on présente, à part dans 5 à 10% des cas en général, l'éventail des décisions, c'est exactement les décisions que vous auriez si vous alliez 100 fois à la Cour d'appel de Paris.
Quand il y a des erreurs, d'où elles viennent et comment est-ce qu'on les corrige?
Alors ça, c'est vraiment c'est une très bonne question. Et alors comment est-ce qu'on les corrige? De deux manières. D'une part, l'outil n'est pas figé, donc chaque semaine, on rajoute tous les nouveaux jugements et arrêts qu'on peut trouver. Et donc plus la base de données est grande, moins il y a d'erreurs. Deuxièmement, nos clients ou nos experts, les gens avec qui on travaille, testent en permanence l'outil ou ils l'utilisent en permanence. Et quand ils voient un résultat qui leur paraît bizarre, ils nous remontent. Et nous, on voit si c'est un des cas, effectivement, dans les 5 ou 10% qui ne marchent pas bien et comment est-ce qu'on pourrait améliorer. Puisque là, on peut guider la machine en disant, là, il y a une erreur, est-ce que tu peux faire mieux? Voilà, mais on ne peut pas savoir a priori. Et la troisième source d'erreur, c'est que quand on définit les critères qui caractérisent un cas, la première phase, en fait, on ne pense jamais à tout et on ne peut pas tout mettre. Donc assez souvent, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on revient sur les critères et on dit, tiens, par exemple, sur la rupture brutale de relations commerciales établies, on a parlé d'exclusivité, mais ça, c'est un peu vague, l'exclusivité. En fait, il y a plusieurs sortes d'exclusivité, donc on va raffiner nos critères pour avoir des résultats plus précis.
parler de l'intelligence artificielle dans les algorithmes beaucoup plus largement. Je voulais évoquer avec vous le cas d'une enquête qui a été faite aux États-Unis où on a vu que les intelligences artificielles avaient des biais racistes qui en fait représentaient les mêmes biais que ceux des juges mais dont on n'avait pas conscience jusqu'à ce qu'on les ait mis dans une machine. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous pouvez le réexpliquer en termes, dans les termes qui vous semblent les bons? Et ensuite, m'expliquer comment, a priori, on pourrait corriger ce genre de biais qui sont très importants dans la société?
Alors oui, je connais bien, puisque c'est avant de créer Question Éthique, c'était vraiment mon domaine de recherche, donc je vais en parler. Pour l'exemple que vous avez pris, effectivement, si c'est celui auquel je pense, c'est le système qu'on appelle Evidence-Based Sentencing, peut-être aux USA. En tout cas, c'est celui que je connais. Et donc, c'est effectivement un système qui est utilisé par presque la moitié des États américains, mais depuis un petit moment déjà, qui n'est pas au niveau de la condamnation, mais si, dans une première audience, la personne a été reconnue coupable, il y a une deuxième audience où on va fixer la durée de la peine, et les juges doivent prendre en compte le risque de récidive, ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. Et donc ce que fait l'intelligence artificielle ici, elle va dire, on va rentrer des critères comme d'habitude, on va dire, voilà, ce condamné, il a 22 ans, il habite dans tel banlieue de Los Angeles, il a tel niveau professionnel, et la machine fait simplement des statistiques, donc il n'y a pas de modèle, il n'y a pas vraiment d'intelligence artificielle, et dit statistiquement, ces gens-là récidivent au bout de 5 ans, donc il faut donner plus. Voilà, donc effectivement, on voit bien qu'il y a des biais raciaux. Alors, c'est pas la machine qui est raciste, évidemment, mais la machine en analysant, ben là, on voit bien qu'en fait, effectivement, assez souvent, les populations qui vont avoir des condamnations plus longues sont typiquement les Noirs, par exemple, aux USA, ou les Latino-Américains. Et donc, ça va perpétuer ou amplifier des biais, parce que finalement, on va dire à quelqu'un, toi, tu vas rester plus longtemps juste parce que t'es noir, et alors que c'est pas individuel. Donc, c'est vraiment le problème que des statistiques donnent des informations sur un ensemble de gens, alors que là, on doit s'adresser à une personne en particulier.
En fait, la machine, elle prend en compte le fait que quelqu'un soit noir ou soit blanc comme une des raisons pour lesquelles on devrait le condamner.
C'est ça.
Parce que c'est ce qu'elle voit dans les données.
Voilà. Alors, effectivement, donc, alors c'est un peu plus vicieux que ça, parce qu'on n'a pas le droit de dire que la personne est blanche ou noire, ce serait anticonstitutionnel, mais finalement, ça revient à ça. Donc ça, c'est vraiment un problème de statistique, parce qu'on confond causalité et corrélation. On a des corrélations et on prend ça pour des causalités. Voilà. Quand on fait vraiment de l'intelligence artificielle et qu'on a des modèles, on a des variables en entrée et on dit ça c'est les causes et voilà les conséquences. Donc du coup ce problème va pas se poser de la même manière. Disons que si on faisait de l'intelligence artificielle, là vraiment on n'aurait pas ce problème. En revanche, c'est vrai qu'on va perpétuer des biais éventuellement raciaux, parce que, en tout cas avec notre technique, voilà, par exemple, nous ce qu'on a réalisé, c'est que dans un cadre de licenciement, rien dans la loi ne dit qu'un cadre doit avoir plus ou moins qu'un non-cadre. C'est pas un critère. Mais quand on regarde les décisions, on voit qu'effectivement les cadres, à toutes choses égales par ailleurs, ont plus d'indemnité. Donc comme la machine apprend des anciennes décisions, dans les nouvelles décisions, elle va aussi avoir tendance à donner plus au cadre. Parce que c'est comme ça que raisonnent les juges. Alors, donc ça, c'est effectivement un problème très important, que moi j'ai étudié pendant de longues années, qui est le fait que quand on applique des modèles mathématiques à des questions de sciences humaines, donc comme le droit, l'économie, la finance, la sociologie, le modèle va apprendre une situation, mais ensuite, il va interagir avec la réalité, et donc il va faire ce qu'on appelle un effet performatif, qu'on a vraiment en sciences humaines, mais qu'on n'a pas dans les sciences dures. Par exemple, si on fait un modèle pour la gravitation, et donc ensuite on envoie une fusée sur la Lune, si on s'est trompé dans notre équation de gravitation, bah la fusée elle va rater la Lune, mais après c'est tout, il se passe rien, la nature elle change pas. Là, c'est l'exemple qu'on vient de prendre, si on dit à la machine ça se passe comme ça, donc après les gens vont prendre des décisions suivant ce qu'a dit la machine, et donc ils vont modifier la réalité. Donc moi j'ai étudié ça pendant de longues années dans le domaine financier. En finance, les gens utilisent beaucoup de modèles mathématiques. Un modèle est toujours faux par définition, parce que la définition d'un modèle, c'est on simplifie la réalité, on regarde quelles sont les variables importantes, et voilà. Donc quand les modèles deviennent un peu trop faux, bah, ce qui se passe, c'est qu'on va modifier la réalité, soit dans un sens, soit dans l'autre. Et donc, c'est une des causes, hein, c'est plus compliqué que ça, mais quand même, c'est une des causes des crises récentes, c'est que les modèles ont été utilisés à mauvais escient. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont utiliser des modèles hors de leurs limites naturelles, on va dire, ou dans lesquelles ils ont été définis. Alors, soit la réalité va se plier à ce que dit le modèle, et donc par exemple l'evidence-based sentencing va mettre encore plus de noirs en prison, et donc on va amplifier un effet, soit au contraire la réalité va se rebeller contre ça, et c'est les crises financières, les marchés vont dire bah non, en fait on marche pas comme ça, et du coup on a une crise.
Mais donc là vous venez quand même de dire qu'une des sources d'erreur, c'était aussi d'utiliser en gros un outil pour quelque chose qui n'est
pourquoi il n'avait pas été construit à la base. Et donc ça aussi c'est important à mentionner pour l'intelligence artificielle.
Vous avez raison, il faut tout outil mathématique, et en particulier l'intelligence artificielle, doit vraiment venir avec des
limites peut-être,
voilà,
ou un cadre.
Ou c'est ça, oui, je ne retrouve plus le mot. Enfin, il y a des valeurs nominales dans lesquelles on peut l'utiliser, et ailleurs il est plus valide. Voilà, alors après, en droit, à mon avis, il va se passer deux choses. Il ne va pas forcément se passer cette performativité convergente comme on a vu pour l'évidence Bayes statistique, où le modèle va influer sur la réalité et le rendre pareil. Je pense qu'il peut aussi se passer le contraire. Par exemple, si les gens se mettent à utiliser des outils vraiment de ce qu'on appelle de justice prédictive, où on fait juste des statistiques comme ça, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que moi, je fais confiance, en tout cas en France, à l'indépendance des juges. Donc, ils vont voir ces résultats et ils vont trouver ça de plus en plus bizarre. Et ils vont, ces résultats vont être prouvés faux parce que les gens qui décident, voilà. Et donc, ce qui va se passer, à mon avis, le danger principal, et ça, c'est quelque chose qu'on étudie grâce à un financement qu'on a obtenu de la mission Droit et Justice, avec donc une universitaire juriste à Nice et un sociologue. Donc, on étudie ça vraiment d'un point de vue théorique. À mon avis, le danger principal, c'est d'avoir un peu une justice à deux vitesses où des gens n'auront pas les moyens de se payer un bon avocat et d'avoir une vraie approche humaine de la justice. Ils vont utiliser des outils comme ça, qui vont leur dire voilà ce qui va se passer, et ils vont croire que c'est ça. Et puis, les gens qui ont les moyens ou qui ont la connaissance, qui ont l'information, ils savent que ça ne va pas se passer comme ça. Et du coup, on aura un peu une justice à deux vitesses. Ça, c'est un danger qui pourrait arriver.
En abordant les biais, on touche aux limites de l'IA, l'intelligence artificielle. Fréquemment, les robots sont perçus comme infaillibles, ou du moins très probablement justes, parce qu'ils reposent sur des mathématiques. Mais ce que Jacques Lévy-VL rappelle, c'est que la justesse des résultats des algorithmes dépend d'un usage bien précis, et que les bases de données qui permettent d'entraîner les intelligences artificielles ont besoin d'être vérifiées aussi précisément que possible, afin d'éviter qu'elles ne provoquent des erreurs.
Dans les critiques de l'automatisation que l'on peut lire de ci-de-là, notamment celle d'un écrivain américain qui s'appelle Nicolas Carr, une des idées, c'est que plus on met de robots, d'intelligence artificielle ou de technicité dans un domaine précis, plus en fait on risque d'avoir un humain, donc là en l'occurrence ce serait un juge ou un avocat, qui se repose sur le résultat donné par l'intelligence artificielle et qui du coup ne s'autorise plus à aller tester par exemple une autre manière de défendre la personne. Qu'est-ce que ça vous évoque, puisque vous êtes en train de donner des probabilités de résultats de jugement?
Alors oui, ça m'évoque deux choses. Alors déjà, c'est vraiment un danger, c'est vrai, et ça on le vit tous. Voilà, moi par exemple, ce qui m'énerve vraiment, c'est quand j'achète un livre sur Amazon, ce qui m'arrive rarement, qu'on me présente d'autres livres que d'autres gens ont acheté, qui ont acheté. Je m'en fiche, c'est pas parce que d'autres gens qui ont acheté le même livre que moi et qui ont acheté ça. Donc il faut que chacun aussi lutte à son niveau, parce que ce serait vraiment très, très dommage. Et je pense que l'intelligence artificielle et Internet permettent de faire ça justement, parce que finalement on a quand même accès à plus d'informations, donc dès qu'on se fatigue un petit peu, on peut sortir du système. Et donc il faut vraiment éduquer les gens à faire ça. Et l'autre point, c'est aussi une éducation. Nous, voilà, comme j'ai bien insisté, on ne présente jamais une valeur, parce qu'il n'y a pas une décision, il y a 100 décisions possibles. Mais effectivement, il y a souvent une décision qui est plus fréquente que les autres. Et donc, c'est vrai qu'avec le jury, je présente un histogramme, et je vois tous les juristes qui regardent le plus gros bâton, ils disent « Ah, bah donc la décision, c'est ça ». Et donc, je vais partout à leur expliquer, parce qu'ils ne savent pas qu'un histogramme, le plus gros bâton, typiquement, ça va être 30%. Donc, dans 30% des cas, il y a ça, mais du coup, ça veut dire que plus de deux fois plus souvent, il y a autre chose. Donc, il faut vraiment éduquer les gens que c'est ni la valeur la plus fréquente ni la moyenne qui explique la réalité. Il faut vraiment accepter que la réalité est complexe et que du coup, quand on présente à un juge ou un avocat l'ensemble des décisions, ça veut dire que toutes ces décisions sont possibles et donc elles peuvent tout arriver et qu'on ne peut pas résumer un chiffre.
S'habituer à l'intelligence artificielle, savoir la déceler dans les objets qui nous entourent et l'utiliser de manière adaptée, voilà à quoi peuvent servir les cours que préconise Jacques Lévy-VL. C'est aussi le but de cette enquête, plonger dans la tête des intelligences artificielles pour mieux les comprendre. Merci d'ailleurs à Stéphane Mala, Laurence Madja, Jean-Pierre Yvet, Olivier Courrèges et Jacques Lévy-VL pour les réponses qu'ils m'ont données. Merci aussi à Jasmine Antonis, Laurence De Villers, Franck Beauchac et Laurence Laffont, que le temps nous a empêchés de vous faire écouter, mais dont les explications ont été très utiles pour préparer cette émission.
Dans la tête des intelligences artificielles, c'était une émission de Mathilde Saliou, Simon Decreuse et Ziad Malouf pour l'Atelier des médias. En coulisses, Léo Caravagna, Camille Deloche. Pour en savoir plus, vous pouvez lire notamment le livre « Des robots et des hommes » de Laurence De Villers. Merci à elle. Salut à toutes et à tous. Will you stop, Dave?